François Hellebrun, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
François Hellebrun, vous êtes professeur associé à Sciences Po Paris. Hier, le ministre chargé de l'Europe, Benjamin Haddad, a plaidé à Bruxelles en présence d'une douzaine de ses homologues européens pour une réponse collective face à l'une des pires explosions d'antisémitisme que le continent européen est connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, même si Paris veut accentuer sur cette explosion d'antisémitisme, c'est déjà, je dirais, un pas important qui a été fait par la France de convoquer l'ensemble de certains pays européens pour évoquer ce sujet de l'antisémitisme dont, finalement, on parle beaucoup en France, on parle beaucoup aux États-Unis, mais que derrière, on a l'impression que rien n'est fait pour endiguer cette explosion.
Tout à fait, Pierre. Vous avez raison de souligner cette déclaration importante du ministre des Affaires européennes, Benjamin Haddad, car c'est important de pouvoir traiter ce sujet à l'échelle européenne. C'est-à-dire que on le voit, les initiatives nationales, et la France, depuis un certain nombre d'années, notamment depuis les excellents ministres de l'Intérieur et Premier ministre que nous avons eu avec Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, se sont saisis de ce problème à bras-le-corps. Comment faire reculer la propagande antisémite, les actes antisémites en France? Mais on voit qu'un certain nombre des problèmes auxquels nous sommes confrontés sont de nature européenne. Donc Benjamin Haddad, comme ministre de l'Europe, a réussi à avoir autour de lui, de ce que je lis, une douzaine de ses homologues. Bon, il y a 27 pays dans l'Union européenne, mais on en avait 12, donc c'est déjà bien, pour essayer de se concerter et coordonner. Alors d'abord, dans son constat, il a raison. C'est la pire explosion d'antisémitisme et surtout d'actes antisémites depuis la Seconde Guerre mondiale. Jamais nous n'avons eu de tels chiffres. Ça a été en fonction des pays, multiplié par 2, par 3, par 4, par 5, dans toute l'Europe. Il n'y a aucun pays européen qui n'est épargné. Et donc, effectivement, c'était la pire explosion qu'on ait eue depuis la guerre. Deuxièmement, sur les mesures à prendre, alors là, c'est là où on ne sait pas très bien ce qui a été débattu dans cette enceinte, mais ce qui est important, c'est qu'il faut prendre des mesures concrètes. Par exemple, si on regarde les décisions, parce que j'ai fait les décisions du Conseil de l'Union européenne, le 15 octobre 2024, donc il y a un mois, il y a eu un communiqué de presse, soutien à la vie juive et lutte contre l'antisémitisme, le Conseil approuve une déclaration. Le Conseil a approuvé ce jour une déclaration sur le soutien à la vie juive et la lutte contre l'antisémitisme. Et donc c'est formidable, parce que bon, c'est le Conseil européen, donc c'est très important. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils invitent les États membres, la Commission, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'Agence Union européenne pour la formation des services répressifs à poursuivre et intensifier leurs efforts pour lutter contre l'antisémitisme et soutenir la vie juive dans leur domaine de compétences respectifs. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle une déclaration d'intention. Donc c'est bien. C'est bien, et au moins il y a l'intention, au moins ils sont conscients qu'il y a un problème, ils sont conscients qu'il faut agir, mais il n'y a aucun moyen d'action. Ce qu'on sait, et les organisations antiracistes le savent, c'est qu'il y a des agents de propagande antisémite en Europe, actifs, riches, avec des moyens puissants, et c'est cela qu'il faut cibler, taper et faire reculer. Et notamment, moi je regrette profondément que le commissaire européen à l'industrie Thierry Breton n'ait pas été renouvelé, et qu'on ait à la place M. Séjourné qui ne connaît pas bien ces sujets, tandis que Thierry Breton le connaissait très bien. C'est notamment la lutte contre les réseaux sociaux et la haine en ligne. On le sait aujourd'hui, la principale vecteur de propagation de la haine, c'est la haine en ligne, et donc c'est les réseaux sociaux. Et pour réglementer les réseaux sociaux, la France ne peut pas travailler toute seule. Elle le fait un peu, mais elle ne peut pas travailler toute seule. Ça doit être une décision européenne, avec des sanctions, avec un cadre légal, et la haine en ligne doit être interdite. Deuxièmement, les télésatellites arabes, à commencer par Al Jazeera, avec sa propagande négationniste, antisioniste et antisémite, devraient être interdites de diffusion en Europe, comme on l'a interdit de diffusion Russia Today. Voilà, donc il y a des mesures concrètes à prendre, et j'espère que la sensibilisation et la mobilisation de Benjamin Haddad, qui est un ministre courageux, sur ce sujet-là, va trouver un écho auprès de ses homologues européens pour enfin prendre des mesures concrètes, parce que c'est que par le concret qu'on pourra arriver à faire reculer l'antisémitisme.
Alors, vous parliez des agents infiltrés en Europe qui propagent cet antisémitisme. Et parmi ces agents, il y a la députée de la France insoumise, Rima Hassan, qui avait l'intention de faire une conférence à Sciences Po Paris demain, vendredi. Et finalement, la direction a refusé cette conférence. Le directeur de Sciences Po, Louis Vassy, n'a pas autorisé cette conférence pour risque d'atteinte à l'ordre public. Et Rima Hassan a annoncé dans la foulée saisir la justice pour contester cette décision.
Tout à fait. Et le directeur de Sciences Po, Louis Vassy, qui a été élu il y a un mois et demi par le conseil de l'Institut à la direction de Sciences Po, a pris une mesure de fermeté, de rigueur et de maintien de la sécurité de l'ensemble des étudiants, professeurs et salariés de Sciences Po. Et il a tout à fait raison. J'espère que le tribunal administratif ne cassera pas sa décision. On ne sait jamais avec le tribunal administratif. Tout dépend du juge. Pourquoi il l'a fait ? C'est toujours intéressant de s'intéresser aux faits, à l'historique. Le 5 mars dernier, Rima Hassan avait été invitée par le comité Palestine à Sciences Po, en compagnie de Roni Broman et en compagnie d'un ancien président de l'Université de Paris-Dauphine qui dirige l'Association française de soutien aux universités palestiniennes. J'étais présent à ce débat parce que j'y suis allé pour débattre, et d'ailleurs j'ai contré Rima Hassan sur deux points et on a eu un échange assez ferme. Et ce qui était frappant dans cette conférence, où il y avait à peu près 200 étudiants, dont la très grande majorité des étudiants d'extrême gauche, très proches de LFI, de l'Union étudiante et du syndicat solidaire, ça a été une conférence pour radicaliser, pour enflammer, pour exciter les jeunes étudiants de Sciences Po à devenir de plus en plus radicaux. Ça, c'était le 5 mars. Mmh. Le 12 mars, le principal amphithéâtre de Sciences Po, où je donne certains de mes cours, l'amphithéâtre Émile Boutmy, a été occupé et a été par ces mêmes étudiants qui étaient à la conférence de Rima Hassan. Ils ont transformé cet amphithéâtre Boutmy, qui était le nom du fondateur de Sciences Po, qui était un grand libéral et un grand démocrate. Ils l'ont réappelé amphithéâtre Gaza. Ils étaient tous vêtus de keffiyeh sur la tête et de masques chirurgicaux sur le visage pour pas qu'on les identifie. Et surtout, ils ont interdit et ils ont empêché une jeune étudiante juive de 19 ans de rentrer dans la salle en disant « c'est une sioniste, on ne la laisse pas rentrer ». Donc ça, c'est un acte, d'abord, occuper un amphithéâtre, c'est illégal, c'est une atteinte à la liberté d'enseignement et à la liberté académique. Et deuxièmement, interdite à une étudiante juive de rentrer dans un amphithéâtre, c'est une étudiante de Sciences Po, c'est une discrimination et ils sont poursuivis à la fois devant les commissions disciplinaires, mais aussi au pénal. Les étudiants de Students for Justice in Palestine, mais aussi les étudiants de Solidaire, proches des mouvements trotskistes et de Sud, l'Union étudiante, proche, c'est le syndicat étudiant de l'EFI, aussi le syndicat ATTAC. Mais toute cette coalition veut enflammer le débat, comme on l'a vu, occuper les locaux, agiter, menacer les enseignants, les étudiants, mais aussi certains membres de l'administration. Il y a par exemple une vidéo sur Instagram récente du comité Palestine qui s'en prend très très violemment au directeur de Sciences Po de manière très menaçante, en disant que, comme toujours, leur phraséologie classique, il y a un génocide à Gaza, et Sciences Po est complice de génocide, et le directeur de Sciences Po est complice de génocide. Et donc, accuser le directeur de Sciences Po et Sciences Po d'être complice d'un soi-disant génocide, ben c'est un appel, en fait, à la violence, et c'est absolument insupportable. Et donc, le directeur de Sciences Po est très ferme et très lucide sur ces sujets-là, et il a bien fait d'interdire la venue de cette députée qui ne provoque et qui n'incite qu'à la haine, et qui, par ailleurs, je le rappelle, est poursuivie par la justice française pour apologie de terrorisme.
On va dire encore un mot avec vous sur le blocage des universités. Cette semaine, de nouveaux blocages ont eu lieu. Ça concerne Paris 3, Sorbonne, et toujours concernant la guerre que mène Israël contre le Hamas. Au-delà de ce blocage, François Helbron, dans peu de temps, l'administration américaine va changer. Le président élu Donald Trump arrivera le 20 janvier. Il a fait une déclaration très forte concernant les universités américaines. Il a déclaré que s'il ne faisait pas les universités, si elles ne faisaient pas le ménage concernant l'antisémitisme, il couperait les fonds fédéraux à ces universités. On sait que ce qui se passe aux États-Unis arrive pratiquement rapidement sur le continent européen. Ce qui s'est passé dans les universités américaines après le 7 octobre est arrivé en Europe et en France. Est-ce que, dans le sens inverse, si Trump agit de cette sorte-là par rapport aux universités, on peut s'attendre à ce que ces blocages concernant la guerre à Gaza, eh bien, s'étiole au fil du temps en Europe et en France notamment.
Alors vous avez tout à fait raison sur le mimétisme, mais ce n'est pas que un mimétisme, c'est en fait une organisation très structurée, financée par le Hamas, par le Qatar, par l'Iran, et notamment avec une organisation donc, que j'ai déjà évoquée qui s'appelle Students for Justice in Palestine, qui est présente dans 350 universités aux États-Unis, mais qui est présente dans beaucoup d'universités en Europe et en France. Et ce sont eux les moteurs de l'agitation, avec les mêmes mots d'ordre, les mêmes affiches, les mêmes textes, les mêmes déguisements, kéfis sur la tête et masques chirurgicaux sur le visage, drapeau palestinien gigantesque. C'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes process aux États-Unis, en Europe et en France. Deuxièmement, sur les blocages étudiants, il y en a eu plusieurs la semaine dernière, donc Paris 3, Sorbonne Nouvelle, Tolbiac, Nanterre, Paris 8 Saint-Denis, les cours ont été annulés pendant un certain temps. Paris 3 Sorbonne Nouvelle, il faut saluer le président de cette université, qui est quelqu'un de formidable, qui est Daniel Moucharzé, qui est le petit-fils de Jean Zé, qui est professeur de sciences politiques et qui est très ferme. En fait, ils ont bloqué l'entrée, mais Daniel Moucharzé n'a pas interrompu les cours, a réussi à faire rentrer les étudiants par une autre entrée pour suivre leurs cours, donc les cours ont été tenus. Il a appelé la police et en deux heures, ça a été dégagé. La réponse des présidents d'université est généralement assez ferme en France. Ils sont soutenus pour ça par l'ancienne ministre de l'enseignement supérieur qui avait été très très bien, Sylvie Retailleau, qui n'est plus ministre, et le nouveau ministre qui est l'ancien recteur de l'Académie de Strasbourg, M. Hetzel, a aussi pris des mesures très fermes. Donc c'est tout blocage est interdit, on mobilise les forces de l'ordre tout de suite, et ça c'est la différence avec les États-Unis où effectivement les facs américaines ne l'ont pas fait, où l'ont fait très 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 tardivement et de manière très épisodique. Bah, si une université est bloquée par des piquets de grève d'étudiants ou de soi-disant étudiants, parce que très souvent c'est pas des étudiants, c'est souvent d'ailleurs certains militants frères musulmans connus ou les militants classiques de la France insoumise, et notamment le député Louis Boyard est très actif dans ces mobilisations et ces blocages. Les blocages sont illégaux, donc on appelle les forces de l'ordre, en une demi-heure, une heure, deux heures, c'est dégagé. Après, l'autre problématique, c'est quand les facultés, à l'intérieur des facultés, il y a des occupations de locaux, des occupations d'amphithéâtres. Là, c'est plus compliqué parce que soit vous faites intervenir les forces de l'ordre, et c'est toujours compliqué de faire intervenir les forces de l'ordre dans une université, mais en tous les cas, la chose importante à faire, c'est ce qui est fait dans la plupart des universités, c'est que les étudiants qui commettent ces actions qui sont illégales aux yeux de la réglementation et de la vie étudiante, ben, peuvent être poursuivis en commission disciplinaire de leurs universités et peuvent être aussi poursuivis en justice s'il y a apologie de terrorisme, s'il y a discrimination, s'il y a antisémitisme. Et donc, ce qui compte, c'est la fermeté pour pouvoir continuer à étudier, continuer à travailler. Tout débat est possible, y compris sur les guerres israélo-palestiniennes, les guerres israélo-arabes au Moyen-Orient. Le débat est possible, mais ça doit être un débat démocratique, ouvert, tolérant, et non pas ces slogans de haine, ces slogans d'ostracisation, ces slogans de discrimination et ces slogans négationnistes et antisémites, parfois.
François Helbron, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes professeur associé à Sciences Po. Bonsoir.
Bonsoir Pierre.